Il est 19h20.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès.
C'est super simple, on vous envoie un kit avec le plus souvent un gros coton-tige, vous passez à l'intérieur des joues, vous renvoyez tout ça et 3 semaines plus tard, vous savez à peu près tout de vous, vos ancêtres, vos origines. Vous pouvez aussi avoir une idée assez précise de vos lointains cousins. Vous lirez forcément aussi des témoignages de gens qui ont pu retrouver une partie de leur famille, voire leur mère, lorsqu'elle avait accouché sous X. Parfois encore, vous pouvez demander certains tests médicaux, vos prédispositions en tout cas au Parkinson par exemple, ou à votre intolérance au gluten. C'est devenu un cadeau de Noël, ces tests génétiques en kit, interdits en France, mais Internet n'a pas de frontières. 26 millions de gens ont déjà succombé à cette mode, aux États-Unis mais pas seulement. Et en France, donc, vous êtes entre 100 et 200 000. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment envie de savoir? Est-ce qu'on sait vraiment appréhender un résultat? Est-ce qu'on sait le lire? Quels dégâts ce résultat peut-il causer? Il y a toujours des conséquences, forcément. Est-ce que l'ADN nous dit tout? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle dit vraiment? On en parle ensemble ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Camille, c'est vous la première. Bonsoir Camille et bienvenue.
Bonsoir. Je souhaiterais savoir si l'analyse ADN permettrait de comprendre une caractéristique physique. Dans mon cas, il s'agit des yeux bridés, plus précisément d'un épicanthus qui a été transmis par mon grand-père paternel, donc à mon père, mon frère et moi-même, et maintenant à ma petite nièce. Et on n'arrivons pas à comprendre cette caractéristique par une étude généalogique. Est-ce qu'une analyse ADN pourrait révéler un gène commun, par exemple, aux populations asiatiques ou mongoles? Et enfin, est-ce que ce gène serait plutôt transmis par l'homme ou par la femme?
Eh bien, voilà une question précise. Merci beaucoup, Camille, pour cette entrée en matière, pour vous répondre là très précisément pour le coup, en tout cas, je l'espère, et pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Serge Tisseron est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Psychiatre et psychanalyste. Vous avez écrit « Mort de honte », c'est aux éditions Albin Michel. Ça sort demain et ça parle de secrets de famille. Bonsoir Paul Verdu, chercheur en anthropologie génétique au CNRS et au Musée de l'Homme. Qu'est-ce qu'on peut répondre à notre amie Camille? Comment peut-elle savoir? Est-ce que si elle faisait une étude ADN, elle saurait réellement d'où viennent les yeux bridés de la famille?
Alors, premièrement, à ma connaissance, le déterminisme génétique des yeux bridés est encore extrêmement mal connu. Donc en fait, on ne sait pas encore bien dire quels sont les gènes et quelles sont les mutations impliquées, en tout cas avec un grand niveau de fiabilité, là-dedans. Donc il faut se dire que ça va être déjà un peu compliqué. Ensuite, je ne pense pas que les tests ADN récréatifs, ceux qu'on envoie aux compagnies par Internet, comme vous en avez parlé, proposent de regarder dans votre génome d'éventuels candidats au déterminisme de ces yeux bridés. Donc c'est pas sûr qu'en achetant ces tests, on puisse y arriver.
Mais ça donne au moins une idée, une vraie idée géographique. Camille, vous êtes encore là? Jusque-là, vous n'avez aucune... Il n'y a aucune piste géographique, en fait, pour ce qui vous concerne.
Alors, aucune. Alors, j'ai donné quand même une petite précision assez importante. C'est que cette caractéristique était très forte à la naissance de mon grand frère, au point qu'on s'est même interrogé d'un point de vue médical s'il n'était pas trisomique, en fait, vu que l'épicanthus était très prononcé. Donc, à l'époque, il avait subi des analyses, donc le regard s'était plutôt porté malheureusement vers une piste médicale et non pas géographique. Voilà.
Serge Tisseron, je voyais que vous vouliez intervenir. Est-ce que vous pouvez aider Camille?
Oui, alors la question que je me pose en l'écoutant, c'est mais pourquoi donc est-ce que c'est si important pour elle?
Alors, c'est une question qui reviendra souvent, forcément, parce que c'est un peu l'idée, effectivement.
Voilà, et donc à partir de là, ben, la question qui suit, c'est comment est-ce que cette caractéristique est présentée dans la famille? Peut-être quelle hypothèse, quelle fantasmagorie, quelle histoire plausible elle entraîne. Voilà. Et donc, c'est vrai, connaître, c'est difficile, mais comprendre la manière dont une famille gère une particularité, c'est aussi une vraie question intéressante, à défaut de pouvoir résoudre la question génétique.
Ben Camille, puisque vous êtes la première, je vais vous embêter à nouveau, c'est le psychiatre et psychanalyste qui parle là pour poser cette question-là. Est-ce que, au fond, moi je trouve ça assez fascinant, est-ce que vous vous êtes inventé des choses dans la famille, au fond, avec ses yeux bridés, et est-ce qu'il faut avoir la réponse pour casser tout ce que vous vous êtes inventé finalement, non ?
Alors, pas du tout. En l'occurrence, c'est une question très personnelle et qui n'est pas générale à la famille. Uh-huh. Pour être tout à fait honnête, ce sont beaucoup d'amis qui aujourd'hui me font remarquer cette caractéristique et me disent et me questionnent est-ce que tu as des origines asiatiques ou mongoles ? Est-ce que tu t'es posé la question ?
Et vous n'avez pas la réponse.
Et ce n'est pas la réponse. Et en l'occurrence, j'ai posé cette question à mes parents la semaine dernière, donc l'émission tombe très bien.
Allez pour vous.
Et voilà, donc tout simplement, ce n'est pas une quête d'identité, c'est plutôt une curiosité qui est née du regard des autres.
Et qu'est-ce que vous en feriez si vous le saviez qu'est-ce que vous en feriez, à votre avis? Ça remplit un blanc, tout simplement? Ça met quelque chose dans une case? Ou est-ce que ça peut ouvrir d'autres cases?
Pas du tout. Je pense que ça ouvrirait la case de la curiosité vers peut-être des zones géographiques du monde que je ne connais pas ou des populations que je ne connais pas. C'est plutôt de l'ordre de la curiosité plutôt qu'une quête d'identité, tout simplement. Et peut-être une caractéristique qui est importante quand même, de se dire qu'on a peut-être des origines lointaines que les dans la famille, personne ne connaît. Je trouve que c'est quelque chose de différenciant et qui est intéressant, tout simplement.
Merci beaucoup, Camille. Je vous fiche la paix maintenant, c'est promis. Merci de votre appel. Paul Verdu, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, les tests ADN, l'une des principales choses qu'ils vendent, c'est effectivement d'essayer de reconstruire des connexions d'origine ou de généalogie partagée, en tout cas, entre les individus qui ont participé aux tests auprès de cette compagnie. Donc effectivement, les tests ADN, à défaut de vraiment, à mon avis, pouvoir vous expliquer directement l'origine biologique de vos yeux bridés, pourrait éventuellement vous révéler, ou pourrait pas d'ailleurs, mais peut-être vous révéler des origines communes avec des individus qui seraient aujourd'hui vivants dans des lointains pays, y compris en Asie. C'est potentiellement pourrait répondre à ce genre de questions.
Oui, en tout cas, cette auditrice a employé une phrase très précieuse, une curiosité née du regard des autres. Mm-hmm. Et souvent, c'est vrai que les curiosités qui nous viennent à notre sujet nous viennent du regard des autres.
Il y a une chose, moi, avant qu'on retourne au standard, qui m'interpelle. Pour pouvoir faire des comparaisons, il faut une base de données. D'où vient la base de données de ces compagnies, de ces entreprises
tout à fait,
qui, parce que alors pour le coup c'est des sacrées entreprises aux États-Unis, ça gagne beaucoup d'argent. Donc la base de données, elle vient d'où, et surtout est-ce qu'elle est suffisamment large pour que tout ça ait un sens, en fait?
Alors elle vient des contributeurs essentiellement, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent qu'assez peu à des grandes bases de données médicales qui de toute façon ne peuvent pas donner justement leurs données à ce genre d'entreprise. Mm-hmm. Et donc ils s'alimentent essentiellement des gens qui envoient leur ADN et qui leur donnent le droit d'utiliser ces données comme ils le souhaitent. Donc ces compagnies, plus elles ont de contributeurs, plus leur base de données d'ADN est grande et plus ils pourront révéler des choses qui étaient auparavant inconnues quand la base de données était trop petite.
Moi j'ai lu qu'il suffit de 2% de la population, que 2% de la population fasse un test, pardon, pour qu'on arrive à 100% d'identification. C'est vrai ça ou pas?
Alors il y a effectivement des gens qui font ce genre de calcul. 100% d'identification, pourquoi? Enfin, tout ça est très relatif. En fait, ce que font les généticiens, c'est des statistiques, et tout simplement, ce qu'ils font, c'est qu'ils comparent une séquence d'ADN de 4 lettres, ATGC, il y en a beaucoup, il y en a à peu près 3 milliards de ces lettres-là, et ils les comparent entre eux. Donc, ce qu'on fait, c'est des pourcentages de ressemblance entre des séquences de ATGC, des séquences d'ADN. Pour ensuite dire c'est de l'origine ouzbek, guatémaltèque ou sud-africaine, c'est une question de label qui a été accolé à cette séquence d'ADN par les utilisateurs eux-mêmes.
Donc une fiabilité toute relative, honnêtement, quand je vous entends.
Qui est assez loin, même très loin de la fiabilité de base de données de ce type-là qu'on va trouver en recherche médicale publique ou en recherche fondamentale en génétique des populations.
Voilà qui va intéresser Anne. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors voilà, je m'appelle Anne et je suis née Marie-Anne Frédéric Roger, ce qui signifie que je suis née sous X. Mm-hmm. J'ai 57 ans et j'ai toujours voulu connaître mes parents, que je recherche depuis 29 ans. Donc j'ai fait, je vous parle même pas de toutes les démarches que j'ai faites avant les tests ADN. J'ai fait un premier test ADN en septembre dernier, septembre 2018. En recevant les résultats, j'en ai pleuré parce que j'étais sur deux sites. J'ai balancé mon ADN brut sur tous les sites possibles.
C'est vrai, waouh.
De façon à avoir des correspondances ADN et à retrouver mes parents. Mmh. Tout d'un coup, boum, toutes mes origines méconnues qui m'ont sauté au visage tout d'un coup. Il y avait un petit camembert, 50% écossaise, irlandaise, galloise, nord-ouest de l'Europe, etc. Déjà, je me suis tout de suite dit, tiens, mon père doit être britannique. Je crois qu'il n'est pas au courant de mon existence. Et j'ai attendu d'avoir des correspondances ADN dignes de ce nom, puisque au début, je n'avais que des correspondances ADN de 0,1, 2, 3%, rien d'intéressant pour rechercher. Et puis, j'ai refait un deuxième test sur 23andMe pour avoir mon ADN mitochondrial, ce qui permet de connaître éventuellement la filiation, si elle est paternelle ou maternelle, quand on a une vraie, une correspondance ADN importante. Mmh. J'attendais toujours. Et puis, en avril dernier, boum, un jour, je me réveille, je regarde mon ordinateur, vous avez une cousine issue de Germain. Alors là, ça y est, je suis sur le point de retrouver mes parents. Depuis avril, j'ai tout de suite fait appel à la généalogiste des associations de nés sous X, qui a remonté toute la lignée de cette dame, paternelle et maternelle, puisque nos grands-parents, un de ses quatre grands-parents, et frère ou sœur avec un de mes grands-parents à moi. Donc on a tout remonté jusqu'aux arrière-grands-parents. Et puis ensuite, on a tout redescendu jusqu'aux personnes qui pouvaient être mon père ou ma mère, qu'on est en train de contacter. Alors le travail de généalogie est actuellement fini. Et c'est l'enquêteur des associations qui prend la suite pour retrouver la personne, contacter la personne.
Mais c'est pas vous qui l'appelez directement, c'est ça l'idée? C'est pas comme ça que ça marche?
Non, moi je suis médiateur familial, diplômé d'État. Je fais beaucoup de médiations entre mère, père, etc. et enfant né sous X. Jamais, c'est totalement déconseillé d'un point de vue déontologique, et moi je ne veux pas le faire.
Mais vous voulez...
Je ne veux pas prendre contact directement. Ah ouais. Le jour où la personne, mon père ou ma mère, puisque je ne sais pas encore si c'est la lignée paternelle ou maternelle, je suppose qu'il s'agit de la maternelle. Le jour où la personne sera vraiment tout à fait identifiée avec tout le monde, tout sera à peu près sûr, tout indiquera qu'il s'agit de ma mère. Mmh. Dans ces cas-là, je la contacterai bien sûr.
Ça veut dire que non seulement vous, pour l'instant, vous ignorez effectivement beaucoup de choses encore, tout ça est en cours, on l'a bien compris, mais ça veut dire que du coup, l'historique, vous ne l'avez pas non plus. C'est-à-dire l'histoire qui est derrière, le fait que votre mère ait accouché sous X, etc. Même auprès de cette cousine germaine, il n'y a même pas un fil que vous avez pu tirer. Pour l'instant, vous êtes dans le noir complet.
Pour l'instant, je suis à peu près dans le noir, si ce n'est que quand même. Je sais que la région d'origine de l'un de mes deux parents est Lille, Roubaix, etc., puisqu'on a regardé tous les actes de naissance, tous les actes de décès, tous les actes de mariage de toutes les personnes dont on a remonté la généalogie avec cet arbre miroir, puisque moi j'ai pas d'arbre généalogique, donc on a fait celui de cette cousine germaine. Et alors ils viennent tous du nord de la France. Et je suis environ 30% d'origine nord-ouest de l'Europe.
D'accord. Merci beaucoup Anne pour ce témoignage, vraiment, et on croise les doigts pour vous en fait, pour que ça se passe bien, parce que dans ces cas-là, imagine qu'il y a toujours une espèce de réticence à se poser la question. C'est surtout pour vous, Serge Tisseron, cette question. Forcément, dès que ces tests sont arrivés, des histoires comme celle d'Anne, d'aller retrouver ses parents quand on est né sous X, il y en a énormément. On comprend très bien pourquoi Anne y va. Elle a zéro info sur sa famille. Et à un moment, c'est zéro info, ça doit pas être si simple à vivre. Visiblement, ça fait 26 ans que ça dure. Mais on sait aussi que ça peut être très compliqué après.
Oui, alors déjà, il faut comprendre, enfin, il faut se rappeler que la construction des arbres généalogiques, ça fait bien 25 ans hein, que c'est un phénomène qui marque le grand public. Il y avait une catégorie de la population qui n'y avait pas accès. C'était effectivement, comme Anne, population des sous X. Donc, tout d'un coup, ils se disent, eh ben, il y a tellement de gens qui construisent des arbres généalogiques, moi, j'ai jamais pu, je vais pouvoir le faire. Hein, elle le dit comme ça. Il faut comprendre aussi que cet engouement pour l'arbre généalogique, il n'est pas apparu à n'importe quel moment, il est apparu à un moment où la précarité nationale, internationale devenait de plus en plus grande. Les gens savent de moins en moins où ils vont. Et donc, du coup, l'idée, c'est au moins de savoir d'où on vient. Un engouement pour les arbres généalogiques a vraiment correspondu à cette idée qu'au moins on sait où on va, plus c'est important de savoir d'où on vient. Et donc, voilà, du coup, Anne a la possibilité de s'offrir ce que tous les gens qui ont une famille peuvent s'offrir, un arbre généalogique, il est fixe dans une filiation crédible. Elle a envie de le faire. Alors, vous dites, oui, ça peut être compliqué. Bon, en même temps, elle prend beaucoup de précautions.
Hein. Oui.
Elle prend des précautions utiles.
Et c'est ça que je voudrais ajouter pour les gens qui nous écoutent. Le problème du test ADN en kit qu'on peut avoir chez soi, c'est qu'ensuite, on est tout seul face au résultat. Là, Anne ne fait pas cette erreur-là. Et elle a raison, il y a des intermédiaires, tout ça va se passer doucement, elle a raison, parce que le choc, il est pour elle, comme pour son père ou sa mère. La difficulté, quand on a ce test en kit qui nous arrive, Paul Verdu, c'est qu'on est tout seul. Donc, on peut avoir aussi des informations aussi lourdes que celles-là, à gérer tout seul, ce qui peut créer des choses assez terribles en fait, non ?
Oui, c'est l'un des premiers problèmes de ces tests ADN qui soient récréatifs. D'ailleurs, peut-être un peu le problème puisque qu'on parle de reconstruction de ces origines généalogiques ou même dans les tests qui fournissent une espèce de diagnostic, une susceptibilité à des maladies, etc. Quand vous recevez ces tests-là, vous êtes tout seul face à l'information. Et
alors il y a un degré
en termes de compréhension, c'est pas évident puisque ces tests sont quand même assez difficiles à mener et proviennent d'une science qui est pas nécessairement évidente et intuitive, et il y a personne vraiment pour vous expliquer. Alors les entreprises fournissent une assistance et ce genre de choses.
Et il y a des degrés, c'est-à-dire Grégory Philips, qui est le correspondant aux États-Unis de France Inter, l'a fait lui pour s'amuser, voir à quoi ça ressemblait. Il y a des degrés, c'est-à-dire qu'on peut demander juste à quoi ressemblent ses ancêtres. Le degré du dessus, c'est est-ce que j'ai des cousins, un demi-frère, etc. Et puis après, il y a effectivement parfois, et pas toutes les entreprises d'ailleurs, des choses sur les prédispositions médicales.
Et c'est pas le même prix.
Et qui, elles, peuvent avoir évidemment des conséquences qui sont de très lourdes conséquences.
D'autant plus que leur efficacité est loin d'être toujours prouvée. Hein.
Et ça, qu'est-ce qu'on en sait, effectivement
Alors ça, c'est l'autre difficulté, c'est-à-dire que c'est un peu un fourre-tout, en fait, y compris dans les tests pour les prédispositions aux maladies. Vous avez, en général, un certain nombre de maladies qui sont testées. Ce qu'on teste, en fait, c'est on va regarder si dans votre ADN, est-ce qu'il y a une région de cet ADN ou la lettre, le fameux ATGC, soit c'est un A, soit c'est un G, et on sait que à cet endroit-là, les porteurs de cette lettre-là ont une susceptibilité accrue à la maladie. Oui. Il y a dans cette histoire des maladies qu'on connaît bien, donc c'est tous entendu des mutations très déterminantes de la maladie, mais aussi des choses beaucoup plus aléatoires, c'est-à-dire on ne sait pas encore exactement à quel point est-ce que effectivement cette lettre est liée à cette maladie.
C'est
et puis en plus de ça, l'ADN ne détermine pas tout.
Et c'est ça.
Et donc vous pouvez très bien être porteur d'une susceptibilité au cancer du poumon induit par le tabagisme. Si vous fumez jamais de votre vie, il est fort probable que vous ne développez jamais cette...
Et c'est peut-être ça qu'il faut répéter. C'est pas parce qu'on trouve un certain nombre de choses. Le risque génétique, c'est qu'une pièce d'un puzzle, tout ça est beaucoup plus large et beaucoup plus grand. Et c'est pas parce qu'il y a une pièce de la maladie de Parkinson que vous allez la développer forcément.
Et d'où la nécessité de pouvoir, pour une personne, un individu, de pouvoir être confronté à ces résultats-là dans un cadre où on peut les aider, on peut leur expliquer, leur réexpliquer. Donc dans un cadre médical, comme c'est l'obligation en France, ou dans le cadre de votre auditrice, de se céder avec l'assistance d'associations généalogistes,
ça,
par exemple, et ce genre de choses.
Bonsoir Alain.
Oui.
Alain, bonsoir. Soyez le bienvenu, Alain.
Bon, merci.
Allez-y, alors, écoute.
Eh bien, écoutez, j'ai été donneur de sperme il y a très longtemps, et j'ai compris au bout de quelques années que les hommes et les femmes nés grâce à mes dons pouvaient espérer me connaître. Alors j'ai fait des tests ADN pour leur faciliter la recherche. Voilà ce que je peux vous dire.
Et vous allez dire, et pour l'instant rien, oui. C'est ça je voulais savoir s'il y avait une suite, et pour l'instant rien, ou en tout cas
rien,
vous avez ouvert la possibilité.
Voilà, alors moi ce que je souhaite c'est qu'on dise à tous les enfants nés grâce à des dons qu'il faut qu'ils fassent des tests ADN, comme ça ils retrouveront sans trop de difficultés. Il y en a déjà qui l'ont trouvé, bien sûr.
Il y en a qui cherchent effectivement leur donneur d'autre nom. C'est même l'une des questions qui est soulevée en ce moment par les lois bioéthiques. Donc ça veut dire que vous, Alain, vous avez décidé de laisser la porte grande ouverte. Et est-ce que vous savez ce que vous diriez à un enfant ou un adulte d'ailleurs, parce que vous avez donné votre sperme à quel moment? Il y a une vingtaine d'années, vous l'avez dit, pardon?
Ah non, plus que ça. Plus que ça.
En 74. Alors, donc si vous avez un grand gaillard de 40 ans qui déboule chez vous, qu'est-ce que vous allez lui dire?
Ah ben, a priori, je n'ai rien à lui dire, je suis prêt à répondre à toutes ces questions. Ça, oui,
merci.
Là, volontiers, je répondrai à ces questions. Moi, personnellement, je serais très content pour eux, parce que j'imagine que s'ils m'ont trouvé, c'est qu'ils m'ont cherché. Et que c'était un peu une souffrance pour eux de ne pas savoir qui avait aidé leurs parents à les concevoir. Parce que évidemment, je tiens à dire que je ne suis le papa de personne dans cette histoire. Mmh. Ils ont un papa et une maman, et j'ai été simplement le donneur qui a été sollicité pour les aider.
Merci beaucoup.
Mais bon, pardon. Ça peut les intéresser de savoir que c'est moi, que je suis en bonne santé, ça aussi c'est important. Parce que si j'avais eu une maladie qui s'était découverte tardivement, eux, ils ne pouvaient pas le deviner, hein.
Merci beaucoup.
C'est important.
Merci beaucoup Alain pour ce témoignage. Merci vraiment. Moi je trouve ça formidable, Serge Tisseron. L'idée que, au fond, ça marche à l'envers, y compris par rapport au débat qu'on peut avoir en ce moment sur la bioéthique. C'est pas que Alain veut savoir à qui il a donné son sperme, mais quelle sorte d'adulte ou d'enfant ça a donné. Ce qu'il veut, c'est aider ceux qui potentiellement pourront aller le chercher.
Oui, ça montre que. Bien que le lien éducatif soit extrêmement valorisé, bien qu'aujourd'hui il soit possible de donner son nom à des gens avec lesquels on n'a pas de lien de filiation génétique, ça montre à quel point le lien génétique reste important des deux côtés, du côté des enfants nés d'une personne qu'ils veulent connaître et du côté des donneurs. Ça montre aussi la grande diversité des attitudes, parce que peut-être dans cette émission, dans quelques minutes, un donneur de sperme dirait exactement le contraire.
Bien sûr, peut-être que ceux qui nous écoutent diront voilà. Mais pas du tout, quelle horreur des désormais, ou peut-être même, pour suivre l'exemple de Anne tout à l'heure, une personne qui a accouché sous X se dira « mais moi je n'ai absolument aucune envie qu'on vienne me chercher, puisque c'est la raison pour laquelle précisément j'ai accouché sous X. » La difficulté, le danger même parfois, et les catastrophes que ça peut provoquer existent, non Serge Tisseron?
Oui, alors, vous savez, c'est très compliqué d'anticiper. Donc, tout dépend aussi de la position du législateur. À partir du moment où ces personnes n'ont pas de droit légal reconnu par rapport aux personnes qui sont nées d'elles, les choses sont beaucoup plus claires. Donc je crois que d'ailleurs en France, le législateur a tenu à préciser qu'il n'y avait aucune responsabilité en termes éducatifs ou patrimoniaux. Donc à partir de ce moment-là, quand le législateur pose clairement les choses, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Et c'est important que le législateur se soit prononcé clairement, parce qu'il y avait des zones d'ombre qui laissaient en effet prospérer toutes les attentes possibles, non seulement de reconnaissance de paternité, mais aussi éventuellement de reconnaissance patrimoniale. Donc c'est une très bonne chose que le législateur ait coupé court. Ceci dit, il reste quand même pour chacun le désir de savoir de qui il vient, et encore plus quand une institution, quelque part, le sait, mais n'a pas envie de le lui dire. C'est-à-dire, ne pas savoir d'où on vient, ça peut être un problème.
Mais nous cacher, c'est autre chose.
Mais savoir qu'il y a quelqu'un qui le sait, quelque part, et qui n'en a rien à faire, alors que c'est tellement important pour moi, mais que cette personne ne veut pas me le dire, ça, c'est insupportable.
Lucie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Lucie, allez-y.
Alors voilà, moi je voulais témoigner sur le fait que j'avais fait pareil, de ces tests-là, mais de façon beaucoup plus légère. Donc au vu de ce que j'entends, je pense qu'il y a plusieurs degrés de,
absolument.
On va dire, non
comme
pas,
vous dites,
voilà, non pas, non pas de sérieux, mais disons que moi le test que j'ai fait était plutôt relatif à la recherche d'ancêtres. Donc déjà par rapport à ce que vous évoquiez en début d'émission, la question des secrets de famille ne se posait pas. J'étais très à l'aise par rapport à ça, puisque ça ne mettait pas en cause ni mes parents, mes grands-parents. grands, mes arrières, etc.
Et en même temps, Lucie, qu'est-ce que vous en savez? Vous auriez pu en découvrir un de secret de famille.
Peut-être, mais dans la mesure où c'est présenté de façon générale et que ça toucherait à des générations vraiment anciennes, ça laisse le secret là où il est. Ouais. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, pour ma part, moi, j'ai découvert, je suis du pourtour du bassin méditerranéen, j'ai découvert que j'avais éventuellement, parce que j'ai envie d'y croire, des origines nigérianes, éventuellement 17% d'écossais, d'irlandais, ce qui était un petit peu exotique. Et je trouve que c'est quelque chose qui favorise l'ouverture des prix, et notamment par les temps qui courent de nationalisme et puis de racisme quand même assez présent, j'ai trouvé pour ma part que c'était un moment de légèreté et j'en étais très fière. Et au-delà de ça, j'ai évidemment communiqué auprès de mes amis, etc. Ça a fait quelques émules et ça m'a permis de dire attention, hein, on est dans une période parfois un petit peu dangereuse et on est tous à peu près cousins, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose de léger et de beau.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Lucie. Paul Verdu, le chercheur en anthropologie génétique que vous êtes, ne contredira pas Lucie, bien au contraire.
Sûrement pas sur la légèreté, en tout cas. Non, je pense qu'il y a des choses délicates. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec le propos de cette dame sur nous faisons tous partie d'une même humanité.
Ça fait parfois du bien de découvrir qu'on est personne né 100% français, né 100% autre chose, etc.
Bon, mais en fait, ça fait du concrètement, bien. Ce qui me pose problème, c'est que ces tests ADN ne vous parlent pas vraiment de ça. Il n'y a pas d'ADN français, d'ADN espagnol ou d'ADN breton. Il y a de l'ADN qui est porté par des gens qui sont nés à un endroit, qui vivent à un endroit, et ça peut être la Bretagne, l'Allemagne, etc. Mais ce qui est un peu délicat pour moi, c'est qu'encore une fois, on revient à cette question de la base de données. Si cette dame a reçu un résultat, par exemple, pour cette histoire d'Écossais et d'Irlandais, si la base de données avait été plus enrichie en d'autres personnes qui viendraient par exemple du nord de la France, est-ce que ce serait vraiment 14% ou 15% d'Écossais et plutôt que 1%? Donc en gros c'est relatif, c'est-à-dire que on va comparer votre ADN à la base de données et on va vous dire parmi les 1000 personnes qui vous ressemblent plus génétiquement dans la base de données, il y en a 14% qui ont mis le label écossais. Vous refaites le test dans 6 mois avec une autre composition de la base de données, il est possible que ces proportions changent énormément.
Si on avait de l'argent à jeter par la fenêtre, ça veut dire que si on joue à faire 2 tests dans 2 entreprises différentes, on peut trouver 2 résultats finalement assez différents. En fait.
Selon la composition de la base de données, oui.
Serge Tisseron ?
Oui, on parle beaucoup, et à juste titre, des motivations des gens qui font ces tests et des précautions qu'ils doivent pouvoir prendre. Mais l'une de ces précautions dont on n'a pas encore parlé, c'est comment ils vont rendre compte à leurs proches et notamment à leurs enfants. Parce qu'évidemment, quand on reçoit les résultats, on se met à rêver, à ben, tiens, 15% d'Écossais, peut-être « Ah, ben mon arrière-grand-mère m'avait dit, tu sais, dans le Nord, là-bas, quelqu'un qui avait l'accent anglais. » Et donc, du coup, on se construit des histoires. C'est inévitable. On se construit des histoires. On fait ces tests pour se construire des histoires. On se construit des histoires. Alors, à partir de là, soyons prudents quand on en parle à nos enfants. Ne leur présentons pas ces résultats comme quelque chose de définitif et ne leur présentons encore moins les élucubrations que nous faisons autour de ces tests comme des histoires fiables. Ayant toujours la modestie de dire, tu sais, en fonction de ces tests, mais peut-être un jour, il y aura des résultats différents, plus affinés, etc., si tu le fais un jour. Et puis moi, j'ai imaginé ça, mais c'est seulement ce que j'ai imaginé. Et je crois que là, pour le coup, ça peut éviter de fabriquer des histoires familiales qui pourraient se transformer en secret.
On a bien vu le côté très ludique dans Lucie qui nous l'a raconté. On peut rester à ce niveau ludique, mais effectivement, vous avez raison. Attention, quand on va chercher un peu plus longtemps, allez-y, Paul Verdu.
Une autre chose sur laquelle j'aimerais attirer l'attention, c'est un problème de catégorie, c'est pas un problème de génétique. Là, on parle d'Écossais, d'Irlandais, etc. On est à peu près cohérent du point de vue des catégories parce qu'on prend une entité nationale. Certains de ces tests vont vous dire vous êtes 15% juif, 20% d'Europe de l'Est et X% d'Afrique du Nord. Ce sont des catégories, on mélange des choux et des carottes. On peut très bien être juif et d'Europe de l'Est ou d'Afrique du Nord. Et comment est-ce que ces choses-là se découpent? Et en fait, il y a la spontanéité, le côté ludique de la chose, parfois nous font un peu oublier ces histoires de mélange de catégories emboîtées et ça peut introduire de grandes confusions qui sont encore une fois pas écrites dans l'ADN et qui sont du ressort de la construction de la base de données par l'entreprise.
Patricia, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y Patricia, on vous écoute, soyez la bienvenue.
Oui, j'appelais parce que j'ai adopté une petite fille il y a 35 ans, née sous X. Elle est soit africaine, soit guadeloupéenne. On a fait des recherches à la DAS pour avoir des choses, on n'a rien eu naturellement. Donc j'aimerais savoir si les tests ADN pouvaient lui donner au moins une réponse concernant son pays d'origine, soit l'Afrique, quel pays d'Afrique, pour avoir au moins une petite réponse à toutes les questions qu'elle se pose maintenant.
Merci Patricia. Paul Verdu, est-ce qu'on peut donner une géographie? Est-ce qu'elle pourra avoir une géographie fiable ou pas?
Alors encore une fois, j'insiste, ce qu'on va trouver, c'est les gens dans la base de données qui ont l'ADN le plus proche de votre fille. Et ces gens, ils ont donné une information à la base de données comme je vis en Guadeloupe ou je viens de Guadeloupe ou d'autres pays. Donc à partir de là, la comparaison de l'ADN de votre fille aux gens de cette base de données va vous donner exactement cette information-là. Ils vont vous donner une origine géographique, mais en fait c'est pas vraiment une origine géographique, c'est dans le monde, parmi les gens qui ont collaboré à la base de données, qui est le plus proche de l'ADN de votre fille. Mmh. Il faudra faire un travail de généalogie plus complexe ou alors un travail statistique très complexe en génétique pour vraiment essayer de parler de les origines géographiques de votre fille.
Voilà cette question de Michael sur franceinter.fr. Les personnes qui donnent leur ADN à une société privée exposent sans condition leur famille. Et c'est vrai qu'on le fait pour soi parce que c'est drôle et ludique parfois, mais que ça peut impliquer d'autres choses. Et il a cette autre question que je voulais vous poser aussi. Et tout cela risque de finir chez les sociétés d'assurance ou pas? Quel est le... Parce que oui, on coche aujourd'hui, quand on fait un test, on coche une case qui dit « je ne veux pas que mes données soient utilisées plus tard ». Qu'est-ce qu'on en sait, non ?
Tout à fait, c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle les tests ADN de ce type-là sont interdits en France, c'est pour des notions de protection des données et de la vie privée. En effet, votre ADN, vous l'héritez de vos parents, qui l'ont eux-mêmes hérité de leurs parents, vous en partagez une partie avec vos frères et sœurs, et vous allez transmettre à vos enfants. Donc votre ADN, il est à vous, il n'y a pas de doute, mais vous le partagez aussi avec plein d'autres gens. Donc quand vous réalisez un test ADN, vous engagez aussi là l'information génétique d'autres personnes qui, elles, n'ont pas forcément donné leur accord pour fournir ces ADN aux entreprises. Et deuxièmement, effectivement, qu'est-ce que ces entreprises vont faire avec ces ADN? Eh bien, justement, ces entreprises ne s'en cachent pas. Elles construisent des bases de données pour ensuite éventuellement pouvoir les monnayer et les revendre à des entreprises. Récemment, une très grande entreprise, un très grand consortium d'entreprises pharmaceutiques anglais a racheté pour la somme d'à peu près 300 millions de dollars pour une utilisation pour 4 ans la base de données d'une de ces grandes compagnies. Et donc ils ont racheté toute la base de données, donc vos informations, etc. Et ils en feront ce qu'ils veulent. In fine, faut pas se leurrer, de la même façon que les assureurs sont intéressés par les données médicales des gens, s'ils peuvent avoir accès à des prédictions de type susceptibilité médicale à partir de l'ADN, pour eux c'est évidemment intéressant, d'autant plus que vous allez effectivement avoir un certain nombre de chances de transmettre ces mutations et ces prédispositions à vos enfants.
Ce qui serait effectivement catastrophique. Vous avez dit tout à l'heure, Paul Verdu, qu'il n'y avait pas d'ADN breton. Eh bien, Gounouen va nous prouver le contraire à tous les coups. Bonsoir, Gounouen.
Bonsoir, Goulven.
Ah bah Goulven, bah autant pour moi. Allez-y, on vous écoute.
Bonsoir. En fait, je vous appelle parce que avec mon épouse, on a découvert pendant notre première grossesse qu'on était tous les deux porteurs d'un gène, le syndrome de Meckel. Et on était porteurs sains, mais notre premier enfant était malade, et du coup, il n'était pas viable. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir des tests qui permettent d'avoir l'ensemble des syndromes dont on est porteur sans en être connaisseur, et qui pourraient avoir connu des conséquences, soit au niveau de la filiation, soit au niveau des maladies.
Merci beaucoup pour cette question, Gounven. Pour le coup, c'est plus compliqué, effectivement, cette question de Gounven. Il est porteur sain, sa femme aussi. Comment ça se passe dans
tout
ce cas-là ?
Tout à fait. Alors, pour répondre précisément à la question de Gounven, il suffit de tester ce qu'on connaît. dans le cas de son syndrome, et c'est pour ça qu'il parle d'être porteur sain, etc., on peut effectivement réaliser un test génétique qui nous donne une bonne idée de la prédisposition et la susceptibilité à ces maladies-là. On est très loin de connaître le déterminisme génétique ou les prédispositions génétiques, les risques de susceptibilité génétique à un très très grand nombre de maladies. On en connaît pas mal pour un certain nombre de maladies, mais s'imaginer qu'on puisse être exhaustif n'est pas encore du tout là du point de vue de notre connaissance du fonctionnement du génome. Ensuite, il y a une autre couche qui est délicate, c'est il se trouve que vous êtes porteur sain, votre femme est porteur sain, il y a quand même une loterie à la reproduction de quel gène vous allez transmettre à votre enfant. Est-ce que c'est la version qui n'induit pas de maladie ou est-ce que c'est celle qui risque de donner la maladie? Concrètement, il y avait une chance sur quatre pour que l'enfant soit porteur des deux versions qui prédisposent à la maladie.
La transmission des gènes est aléatoire, c'est bien aussi qu'on s'en rappelle dans ce genre de situation.
Donc, il y a, je crois, 10% de mutations in utero, donc déjà, ça peut changer beaucoup de choses. Et puis n'oublions pas que des maladies aujourd'hui dites incurables, si elles sont à déclenchement à 25, 30, 40 ans, dans 40 ans, il y aura peut-être des moyens de les soigner. Donc, il ne faut pas que des parents craignent de mettre au monde un enfant susceptible de développer une maladie qu'on ne peut pas guérir aujourd'hui quand il aura 50 ans, parce que quand cet enfant aura 50 ans, on peut imaginer qu'elle pourra être guérie. Donc, ça rend les choix extrêmement compliqués. Mais je veux dire, il ne faut pas uniquement se baser sur ce qu'on sait aujourd'hui.
Il n'y a pas de déterminisme implacable.
Voilà.
Et cette question, maintenant, on parle d'accès à l'ADN pour avoir cette information-là, mais encore une fois, c'était les questions des maladies familiales et généalogiques. Les médecins s'intéressent aux prédispositions familiales sans, depuis bien longtemps et bien avant d'avoir accès directement à l'ADN. Donc le test ADN, dans ce cas-là, est un outil supplémentaire de quelque chose, d'une préoccupation des gens et d'un outil des médecins supplémentaire, mais par rapport à quelque chose qui existait déjà avant sous une autre forme.
Paulette, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Paulette, allez-y.
Oui, merci. Disons que j'ai fait mon test ADN en Espagne en 2011, parce que ça se faisait pas ailleurs. Par rapport à des suspicions, je soupçonnais que mon père n'était pas mon père, mon papa n'était pas mon père. Ça s'est confirmé. Suite à ça, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est hyper, hyper compliqué au niveau subtil, c'est-à-dire qu'on touche aux racines de plein, plein de choses. Pour ma mère, j'ai pu en parler que 2 ans après que j'ai eu l'info, parce que j'avais peur que ça l'ébranle complètement. Ça l'a ébranlé, mais petit à petit, ça s'est fait, on a pu en parler, on a pu avancer, mais ça reste toujours un secret de famille, puisque nous portons maintenant le secret toutes les deux, avec mon mari, bien évidemment, puisque l'histoire, c'était que de découpiller le truc par rapport aux enfants, et puis que ça continue pas, quoi, que voilà, qu'il y ait quelque chose qui se casse. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que il y a un équilibre qui se fait autour du secret, et quand on y touche, même si c'est infinitésimal, ce déséquilibre bouge et tout le monde bouge et c'est très déstabilisant pour tout le monde. Quoi.
Mais,
voilà.
Mais vous ne regrettez pas, Paulette, parce que cette réponse, vous la vouliez au bout du compte.
J'ai eu tout. Hein. J'ai eu tout sur le moment parce que j'étais hyper contente et puis après, je me suis dit, merde, à quoi t'as touché? Et puis, en fait, non, je suis très, très heureuse d'avoir fait cette démarche parce qu'on met les choses à la lumière et puis quand on est à la lumière, on peut avancer. Quoi. Voilà.
Oui, il ne faudrait pas croire que ce genre de test confirme toujours un doute sur ses origines. J'ai eu des situations dans lesquelles il y avait une rumeur familiale qu'un enfant n'était pas né de son père légitime. Et là, au contraire, le test génétique a permis de montrer que c'était une rumeur familiale, inventée par un proche ou même un membre de la famille jaloux ou mal informé ou qui avait pu se construire un certain nombre d'histoires sur le fait que la mère d'un enfant avait trompé son mari et que l'enfant était né d'un autre homme que le mari officiel. Donc il y a des situations dans lesquelles ces tests ont au contraire un effet d'apaisement. Voilà. Donc Donc les faire, c'est pas forcément s'exposer à plus de complications. Il arrive que les résultats, au contraire, fassent retomber les choses et les rendent, confirment la situation familiale légitime, officielle.
Mais c'est intéressant ce que dit Paulette, parce qu'elle elle a besoin de le savoir, elle, mais elle sait que ça peut déclencher des choses importantes. Donc elle met 2 ans avant d'en parler à sa mère. Enfin, il y a tout un processus à avoir derrière. C'est ce que disait notre auditeur internaute tout à l'heure. On le fait pour soi, mais il touche à tout le reste de la famille, forcément, ce test.
Ben, il en est des résultats de ces tests, comme de toute vérité. Hein. Ce n'est pas un marteau pour taper sur la tête des autres.
Paul Merdu, juste avant de finir, j'ai une question, une sorte de quiz pour vous. J'aimerais savoir, cet internaute voudrait savoir si c'est vrai. Quid de l'ADN des Indiens d'Amérique qui ne serait présent dans aucune autre population sur Terre? C'est une légende, ça, ou pas?
Alors, déjà, on porte tous de l'ADN. Donc, la question telle qu'elle est formulée...
Celui des Indiens d'Amérique. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'ADN breton, donc il n'y a pas d'ADN d'Indiens d'Amérique non plus.
Exactement.
Et voilà comment on tord le cou à une idée reçue. Quel dommage, c'était plutôt joli. Merci beaucoup, réellement. Merci à tous. Merci pour vos nombreux appels. Dans un instant, c'est Laure Adler pour l'Europe Bleue, comme d'habitude, avec une rediffusion de l'interview qu'elle avait réalisée avec Peter Lindbergh. Donc, je vous conseille réellement d'écouter. Pour l'instant, il est 20h.